Ordo. Exode au chapitre 15 et à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. C'est un récit que nous connaissons très bien, une histoire que nous connaissons très bien, mais le Seigneur a permis que nous puissions le méditer cela ce matin tous ensemble. Exode chapitre 15 et le verset à partir du verset 22, verset 22 à 27. Exode 15, verset 22 à 27. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Chers frères et sœurs, c'est un message, c'est un récit. Quand je commençais à méditer là-dedans, j'étais un peu, je dirais pas bouleversé, mais j'ai appris beaucoup de choses que je voudrais partager ensemble avec vous, avec l'aide du Saint-Esprit. Le titre de notre message ce matin, l'épreuve de Mara. L'épreuve de Mara. Parce que tous ces récits-là se passent à côté d'une source d'eau qu'on appelle Mara. L'épreuve de Mara. J'ai essayé de chercher dans les dictionnaires bibliques la définition du mot épreuve. J'en ai trouvé plusieurs, mais j'ai retenu deux. La première, une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou la valeur d'une personne. Et la deuxième, une épreuve est un test qui met en évidence la confiance en Dieu ou le manque de confiance en Dieu. Une épreuve qui met en évidence la confiance en Dieu, ma confiance en Dieu, ta confiance en Dieu ou ton manque de confiance ou mon manque de confiance en Dieu. Les épreuves sont utiles dans la mesure où elles nous apprennent à nous connaître nous-mêmes. Elles nous révèlent, ces épreuves nous révèlent nos insuffisances ou notre confiance en Dieu. Ensuite, j'ai cherché la définition du mot Mara. Mais pourquoi ils ont donné ce lieu le nom de Mara? La Bible dit, parce que l'eau était amère, c'est pour cela qu'ils ont appelé ça Mara. Mais qu'est-ce que signifie Mara? Toujours d'après le dictionnaire biblique, Mara signifie amertume. Mara signifie amer. Amertume ou amer. Souvenons-nous, dans la Bible, Naomi, de retour à Bethléem, quand Naomi avait perdu son mari. Quand son mari était mort, son mari Élimélec était mort, et ses deux enfants, parce qu'il avait que deux enfants, le mari est décédé, et ensuite ses deux enfants étaient décédés, elle était remplie de tristesse, Naomi. Et quand elle est rentrée maintenant à Bethléem, les gens de Bethléem l'ont accueilli, l'ont appelée Naomi, mais elle demanda aux gens de Bethléem qu'on n'appelle pas Naomi, mais qu'on l'appelle Mara. Pourquoi? Car, dit-elle, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc, le mot Mara signifie amer ou amertume. Dans ce monde où nous vivons, chers frères et sœurs, nous sommes tous sensibles à notre environnement. Il fait chaud, il fait froid, il fait ceci. Donc, nous sommes tous sensibles à notre environnement. Et ce qui touche notre corps, ce qui atteint notre corps, souvent, d'après les statistiques, souvent, cela blesse notre âme. Cela blesse souvent notre âme. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. 3 jours de marche, 3 jours de marche dans le désert, la Bible dit, ils ne trouvèrent point d'eau. Et quand ils ont trouvé d'eau, parce que dans le désert il fait chaud, on a soif, ils ne trouvèrent pas d'eau, et quand ils ont trouvé de l'eau à boire, ils ne peuvent la boire parce que cette eau était amère. Imaginez un peu quelle déception. Quelle déception. Il y a des statistiques qui disent que nous, les Français, nous sommes parmi les grands râleurs du monde. Les Français, quand il fait chaud, ils râlent. Quand il fait froid, ils râlent. Quand on fait des réformes, on râle. Quand on fait ceci, on râle. Et les enfants d'Israël, ils voulaient boire de l'eau, ils avaient soif, et ils trouvent de l'eau, ils veulent la boire, cette eau est amère. Quelle déception. Alors, essayons de nous mettre à leur place. Quel genre de questions ils se sont posées. Entre autres, pourquoi ça? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça nous arrive? Et ce genre de questions, bien-aimés, frères et sœurs, nous nous posons souvent ce genre de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Mais c'est pas possible. Pourquoi Dieu a permis cela? J'espère que chacun de nous a au moins une fois s'est posé déjà ce genre de questions. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et c'était une grande déception pour eux. Alors, posons-nous une question. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Parce que c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Certainement pas. Certainement pas. Et c'est ce que nous voulons voir dans ce récit. Mais souvenons-nous aussi que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, c'est le verset 11, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça voudrait dire qu'au travers de ce récit doit nous servir d'exemple, et ce récit doit nous permettre de tirer des leçons pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites à l'époque. Alors, notre message s'articule sur 4 points, 4 axes. Le premier point, nous allons voir, avec l'aide du Seigneur, que représente pour nous la marche dans le désert des enfants d'Israël. Parce que tout cela se passait dans le désert. Que représente pour nous la marche dans le désert des enfants d'Israël? Le deuxième point, nous allons voir le comportement de ce peuple face à l'épreuve. Quel a été leur comportement face à cette difficulté? Le troisième point, nous allons voir l'attitude de Moïse. Comment Moïse a réagi? Et enfin, nous allons voir la réponse de Dieu. Quelle a été la réponse que Dieu a apportée à son peuple? Alors, le premier point, que représente pour nous la marche dans le désert des enfants d'Israël? La parole de Dieu dit que ce peuple a marché pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. C'est énorme, 40 ans dans le désert. Et notre marche chrétienne, ici-bas, frères et sœurs, est comparable à la marche dans le désert de ce peuple. La marche dans le désert des enfants d'Israël avait pour objectif la terre promise, le pays de Canaan. Ils marchaient pour atteindre un objectif, la terre promise. Et nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, notre marche chrétienne a objectif le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Notre marche ici-bas, c'est un voyage vers le royaume des cieux. Comme a été le voyage des enfants d'Israël dans le désert pour atteindre la terre promise. Notre marche chrétienne est un voyage qui a pour objectif le royaume des cieux. Nous devons considérer, chers frères et sœurs, le monde et tout ce qui s'y trouve comme le désert dans lequel on ne trouve pas d'eau. Eux, ils n'ont pas trouvé d'eau. Juste après 3 jours de marche, ils n'ont pas trouvé d'eau dans le désert. Ils n'ont pas trouvé d'eau dans le désert. Et il n'y a rien dans ce monde, frères et sœurs, qui peut nous offrir de quoi étancher notre soif. Sans l'intervention de Dieu, à Mara, il n'y avait rien qui pouvait étancher leur soif. Le désert ne pouvait pas étancher leur soif. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas étancher notre soif, chers frères et sœurs. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures, comme l'a dit un de nos frères dans sa prière. Et rien dans le monde ne peut nourrir cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Par conséquent, toutes les sources d'eau que nous pouvons trouver dans ce monde, toutes les sources d'eau que nous pouvons trouver dans ce monde ne sont que amères. Toutes les sources d'eau que nous pouvons trouver dans ce monde ne sont que amères. Tout ce qu'il y a dans le monde ne peut fortifier notre foi. Ne peut fortifier notre foi. C'est pour cela que nous devons marcher, non pas par la vue, mais par la foi, comme il nous a été prêché le dimanche passé par notre frère. Nous devons marcher non pas par la vue, mais par la foi. Le monde ne peut rien nous donner, ne peut pas nous fortifier, parce que tout ce qui est dans ce monde est aride, sec, desséché, amer. Et David a dit dans Psaume 63, 1, le 1 à 2, si le frère Stéphane peut nous lire ce passage. Psaume 63, 1 à 2.
Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau.
Merci. Ce monde, toutes les sources de ce monde, les sources d'eau de ce monde ne sont que desséchées, sans eau, arides, amères. Alors, comme David, nous devons que chercher l'Éternel. Je te cherche. Et notre âme doit avoir soif de lui. Nous sommes que des passages dans ce monde, dit la Bible, et notre cité à nous est dans les cieux. Il y a un cantique qui dit que pèlerin, nous sommes que des pèlerins. Comme les enfants d'Israël, ils n'étaient pas censés demeurer dans le désert, non. Et nous ne sommes pas censés demeurer dans ce monde, non. Même Jésus-Christ lui-même a dit, Père, garde-le, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce peuple n'était pas le peuple du désert. Ils devaient passer, traverser, voyager. Ils n'étaient que des pèlerins pour atteindre la terre promise. Le deuxième point que nous voulons voir, chers frères et sœurs, c'est le comportement de ce peuple face à cette épreuve. Comment ce peuple a réagi face à cette épreuve? Et en lisant toujours la Bible, nous savons que plusieurs fois et de différentes manières, l'Éternel a mis ce peuple à l'épreuve. Et pourquoi il les a mis à l'épreuve? Afin de voir leur obéissance, leur confiance en lui. C'était un moment de, comme on dit souvent, un moment de vérité dans lequel ce peuple Amara est confronté à la réalité. C'était un moment de vérité pour eux. Un vrai test de leur foi, de leur obéissance et de leur fidélité envers Dieu. Et l'Éternel va même leur rappeler cela, que c'est lui qui les a mis à l'épreuve. Et nous le voyons dans Deutéronome, si le frère peut lire, Deutéronome chapitre 8 et le verset 2. Le livre de Deutéronome chapitre 8 et le verset 2.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements.
Voilà le but de pourquoi le Seigneur leur fait passer par cette épreuve. La Bible dit, comme le frère vient de nous lire, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Notre foi doit être éprouvée. Il y avait une fois au travail, notre chef chaque année dans mon travail, on donne pas des promotions, mais bon, on change de coefficient, c'est-à-dire on monte pas en grade. On monte pas en grade. Et chaque année, on fait une évaluation. Après, le responsable dit on t'accorde tel pourcentage d'augmentation. Tu changes de coefficient, tu montes en grade. Et il y avait un collègue, lui, c'était pas le cas. Et il râlait. Mais pourquoi un tel a eu. Et pourtant, il était deux mois d'arrêt maladie. Nous, on était là, on était toujours présents. Le chef lui a dit, tu dois faire tes preuves. Tu dois faire tes preuves pour que je puisse t'accorder cela. Et notre foi aussi, nous devons faire des preuves, frère. Mes frères, nous devons passer par l'épreuve. Notre foi doit être éprouvée. Parce que de foi, la foi est mêlée à certaines impuretés, certaines saletés. Et la Bible dit que notre foi doit être éprouvée. Et le Seigneur Dieu a éprouvé la foi de son peuple pour voir s'ils étaient fidèles, s'ils obéiraient, s'ils resteraient toujours, s'ils auront toujours confiance en lui. D'ailleurs, la Bible nous le dit, que notre foi doit être éprouvée. L'apôtre Pierre prend l'exemple de l'or pour éprouver par le feu. notre foi. Notre foi doit passer par l'épreuve de feu pour ôter la saleté afin de le rendre plus pur possible. Et nous trouvons cela dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Frère, si tu peux lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7.
Êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Amen. Dieu permet certaines épreuves dans nos vies pour nous faire voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu permet certaines épreuves pour nous faire voir ce qu'il y a au-dedans de nous. Au-dedans de nous. Nous pouvons citer l'exemple d'Abraham, c'est une histoire que nous connaissons bien. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Il a dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et nous connaissons tous la suite. Mais Dieu l'avait mis à l'épreuve. Mais pour ce peuple, au lieu que, comme nous venons de lire, au lieu que l'épreuve de leur foi puisse avoir comme résultat la louange, la gloire et l'honneur pour Dieu, l'épreuve de leur foi a eu un résultat décevant. Décevant. C'était quoi? Le murmure. Le murmure. Ils ont murmuré contre l'Éternel, contre Moïse et contre l'Éternel. Ils ont murmuré. Cette épreuve a révélé qu'il y avait des zones, comment on dit en français, des zones d'ombre, c'est ça. Il y a eu des zones d'ombre dans leur cœur qui ont été mis au grand jour, que le Seigneur a révélé. Et dans notre vie de foi aussi, dans notre vie chrétienne, chers frères et sœurs, Dieu peut permettre certaines choses dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, pour essayer de voir s'il n'y a pas des zones d'ombre dans nos cœurs. C'est pour cela que 1 Pierre 5, 7 dit que notre foi doit passer par le feu pour que le... Vous voyez l'or, quand on met l'or dans le feu, on fait chauffer de l'or, toute la saleté s'enlève. Et à la fin, il n'y a que de l'or pur. De l'or pur. Et ce que le Seigneur, des fois, fait dans nos vies, il nous chauffe à fond, il chauffe notre foi à fond pour que des zones d'ombre puissent disparaître dans nos cœurs. Mais le peuple, au lieu d'avoir comme résultat de cette épreuve la louange, la gloire et l'honneur à Dieu, c'était le contraire, le murmure. Ce peuple se décourage devant cet obstacle et il murmure contre Moïse. Il se décourage. Combien de fois, nous nous décourageons devant les obstacles, devant les difficultés, devant des situations difficiles. Soyons sincères envers nous-mêmes. Moi, il y a eu un moment où j'étais vraiment, si je dis découragé, c'est pas vraiment les mots, mais secoué par des événements. Mais le Seigneur dit, non. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Et ce peuple se décourage devant cet obstacle. Il dit à Moïse, au verset 24, « Que boirons-nous? Que boirons-nous ?» Essayez de vous mettre à leur place. Hein. Vous êtes dans le désert, il fait chaud.
Vous avez soif pendant 3 jours, rien, et vous trouvez de l'eau. Vous ne pouvez pas boire, c'est l'eau. Eh bien, vous allez vous en prendre à qui? À celui qui vous a, au chef. Donc souvent, on s'en prend toujours au chef. Surtout au travail, c'est toujours comme ça. Le chef te donne des instructions, fais ça, fais ça. Tu arrives là-bas, mais toujours on s'en prend au chef. Et le peuple d'Israël a fait pareil. Il s'est retourné contre Moïse. La joie qu'ils avaient il y a 3 jours a disparu, cédant place au découragement. Cette joie a disparu et il a cédé place au découragement. Mais ce qui est étonnant aussi, chers frères et sœurs, après 3 jours de marche, il y a maintenant 2 réactions qu'on voit dans leur cœur. Il y a 2 réactions maintenant dans leur cœur. Ils murmurent contre le Moïse. Mais 3 jours avant, quand Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, quand ils ont traversé la mer Rouge à sec, et que le Seigneur a précipité l'armée de Pharaon dans la mer, ils ont fait quoi? La Bible dit, 3 jours avant, ils ont chanté un cantique à l'honneur de l'Éternel. Ils ont chanté un cantique de joie, de reconnaissance à l'honneur de l'Éternel. Mais maintenant, 3 jours après, ils arrivent à Mara. Le verset 24 nous dit, ils disent à Moïse, que boirons-nous? Ils commencent à murmurer. Frères et sœurs, les 2 attitudes viennent du même cœur. La louange et le murmure. Les 2 attitudes viennent du même cœur. Parce que 3 jours avant, ils étaient contents, ils louaient, ils adoraient, ils chantaient. 3 jours après, murmure. Et cela, des fois, se manifeste dans le cœur aussi des enfants de Dieu, des fois. Pas dans le cœur des enfants de Dieu, mais on dit dans notre vie chrétienne. Des fois, ça se manifeste. Vous êtes là, tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux. Mais 1 minute après, 1 semaine après, 1 jour après, ou 5 heures après, c'est le contraire. Mais les 2 attitudes viennent du même cœur. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette bouche qui loue l'Éternel, c'est que le cœur est rempli de louanges. Cette bouche qui murmure, c'est que le cœur est rempli d'amertume. Mais 1 Corinthiens 10, le verset 10 dit ceci, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » La Bible nous interdit de murmurer. Parce que la Bible le dit, « Ne murmurez point. » Ne murmurez point. Comment expliquer cela que le même cœur qui murmure, c'est le même cœur qui chante encore les louanges de Dieu? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'était un ordinateur, ça va bégayer. L'ordinateur va bloquer. Ah oui, donc il ne va pas comprendre, mais c'est quoi? Un jour, donc, j'ai tapé, j'ai cherché un mot. J'avais oublié de mettre un accent sur une lettre, sur E. Un accent. Je tape sur l'ordi, il me dit mot inconnu. Mot inconnu, à cause d'un accent seulement. Un accent, un petit accent que je n'ai pas mis sur E. L'ordi me dit, mot inconnu. Comment vous expliquez dans le même cœur la louange, le murmure? Non. Il y a soit le murmure, soit la louange. Parce que quand vous allez taper dans votre corps, dans votre cœur qui est l'ordinateur, murmure, il va vous dire mot inconnu. Quand vous allez taper dans votre cœur qui est l'ordinateur, le mot louange, mot inconnu. L'ordinateur bègue. Votre cœur, non, il y a un problème. Les 2 attitudes viennent du même cœur. Mais la Bible nous dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns. Les murmures, chers frères et sœurs, sont des vrais obstacles dans notre vie de foi. Des vrais obstacles. Un frère a écrit un petit, bon, sur WhatsApp, hein, donc vous savez maintenant de WhatsApp, dès qu'il y a un petit message, chacun réagit à sa manière, rapidement, il donne un petit commentaire. Un frère a fait un commentaire sur WhatsApp, sur le murmure. Il a dit ceci, je cite. Murmure signifie murmure. Donc, mire, là. Donc, lui, j'ai aimé son expression. Il a dit, murmure signifie murmure. C'est-à-dire, il y a plusieurs murs, plusieurs obstacles que l'on dresse devant sa vie chrétienne. Le murmure. Le murmure sont plusieurs obstacles, plusieurs murs qu'on dresse, qu'on construit devant sa vie de foi. Et c'est un obstacle pour nous. C'est pour cela que la Bible dit, ne murmurons point, ne murmurez pas. Nous devons avoir cette assurance en nous que le Seigneur est là pour nous aider à surmonter tout obstacle. Le Seigneur est là pour nous aider. Nous devons seulement lui faire confiance. L'Éternel n'a pas conduit ce peuple à Mara pour leur faire douter de son amour. Et Dieu aussi aujourd'hui ne nous conduit pas vers les épreuves, ne nous fait pas passer par les épreuves pour que nous doutions de son amour. Loin de là. Loin de là. Parce que la Bible dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et Romains 8, le verset 35 dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la faim, la soif, le manque de travail, le manque de vêtements, les problèmes familiaux, c'est ça qui va nous séparer de l'amour de Christ. La Bible dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Aucune circonstance n'est au-dessus de son amour pour nous. Vraiment que le Seigneur nous aide à marcher les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Le troisième point, c'est l'attitude de Moïse. Ce qui est bien, en lisant ce passage, nous voyons que Moïse ne s'est pas laissé dépasser par les événements. Vous savez, conduire un peuple, être un chef, même au travail, ceux qui sont des responsables ici, qui ont une équipe à diriger, je pense que les savent. Des fois, on dit, mais mon équipe perd. Ils ne sont jamais contents. Tu peux faire tout ce... Chez nous, c'est comme ça. Enfin, nous, moi, dans mon travail, c'est comme ça. Des fois, quand on bosse le samedi, notre chef a même... Il achète même des croissants avec son argent. Vous vous rendez compte? Il achète des croissants pour son argent. Et on est content, on mange tout ça, mais on n'est jamais content. Il suffit qu'il demande qui est volontaire de rester une heure en plus parce qu'il manque quelqu'un dans l'autre équipe. Personne, pas de volontaire. On a oublié les croissants. Personne. Donc, on n'est jamais content. Donc, c'est ça. C'est pas facile de diriger un peuple. C'est difficile. Et Moïse ne s'est pas laissé dépasser par les événements. D'un côté, il avait soif lui-même parce qu'il est avec eux dans le désert. Et de l'autre côté, il a la pression de ce peuple. Un côté, il a soif. De l'autre côté, on le presse. Mais Moïse a dû garder son calme. Moïse a dû garder son calme. C'est très important, frères et sœurs, pendant les jours mauvais, de pouvoir garder notre calme. Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai. Mais c'est toujours bien de garder son calme. Parce que si on ne garde pas le calme, vous risquez de faire tout et n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un qui a fait un accident parce qu'il était paniqué. Il avait des problèmes. Au lieu d'appuyer sur le frein, sur la pédale de frein, dans la panique, il a appuyé sur le pédale d'accélérateur. Il a fait un accident. Et quand tu lui as posé la question, je dis, je n'avais pas ma tête sur moi. C'est très important. Quand on passe par des jours mauvais, quand on passe par des moments de difficulté, d'abord de garder son calme. Moïse a su garder son calme. Nous lisons au verset 25 que Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. D'abord, il a dû garder son calme. Ensuite, il a crié à l'Éternel. Mais au verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Il y a deux points importants que nous voulons me partager rapidement, c'est bref. Deux points importants. Le premier point important concernant Moïse, la Bible dit, il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Moïse savait qu'il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? On lui dit, eh bien, donne-nous à boire. Donc, nous avons soif, nous devons boire. Moïse ne pouvait rien faire. Et il savait qu'il ne pouvait rien faire. Et il a eu la bonne attitude. Il cria à l'Éternel. C'est ce que le peuple aurait dû faire au lieu d'aller mettre la pression à Moïse. C'est ce que le peuple aurait dû faire. Mais Moïse cria à l'Éternel. Il y a des situations aussi où on est, des fois on est bloqué. Hein. On est bloqué que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Moi, j'ai déjà vu des accidents, pas ici en Europe. Un accident de route, les blessés sont là. L'hôpital, il est à 100 km et il n'y a pas de véhicule. J'ai déjà vu cette situation, ce genre de situation. Le véhicule dans lequel vous étiez fait un accident. Il y a plein de blessés tout autour. Vous, par la grâce du Seigneur, vous êtes debout. Vous n'avez rien. Vous voulez aider les autres. Mais vous n'avez ni véhicule. Et l'hôpital le plus proche se trouve à 100 km. Que faire? Vous êtes bloqué. Et dans notre vie, des fois, nous pouvons nous retrouver dans des situations comme ça, que tu as une difficulté et que tu peux, de toi-même, tu peux rien faire. Et Moïse s'est trouvé dans cette situation. Moïse ne pouvait rien faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Moïse a eu la bonne attitude, celle de dépendre de Dieu, et il se tourna vers l'Éternel. Quand on ne peut rien, on se tourne vers l'Éternel. C'est ce que Moïse a fait. Et l'Éternel lui répond. Car la Bible dit, l'Éternel écoute nos prières. Il est attentif à la voix de ceux qui l'invoquent. Il est attentif à la voix de ceux qui l'invoquent. Des fois, il ne répond pas comme nous le souhaitons. Mais il répond selon sa volonté. Et quand il répond selon sa volonté est toujours bonne pour nous. Sa volonté est toujours bonne pour nous. Deuxième point, concernant Moïse, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Certainement, quand l'Éternel lui a dit de prendre un bois et de jeter dans l'eau, certainement, autour de cette source, il y avait plusieurs bois. J'imagine, il y avait plusieurs bois autour, aux alentours de cette source. Mais Moïse n'a pas pris n'importe quel bois. Moïse n'a pas pris n'importe quel bois. Moïse a pris le bois qu'il fallait, c'est-à-dire exactement le bois que l'Éternel lui avait indiqué. Moïse a pris exactement le bois que l'Éternel lui a indiqué, pas n'importe quel bois. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a indiqué tel bois et il a pris ce bois-là. On te dit, prends la troisième chaise. Ce qui est important, c'est d'amener la chaise ici. Mais on t'a dit de ne pas prendre la deuxième, que la troisième. Eh bien, prends que la troisième chaise. Moïse a fait exactement ce que le Seigneur lui a dit. Nous voyons par cet acte de Moïse l'obéissance, son obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, deuxième partie du verset 22, que voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse de bélier. L'obéissance, nous voyons l'obéissance de Moïse. Il a fait exactement ce que l'Éternel lui avait dit. Et Dieu n'a pas montré à Moïse une autre source d'eau. Non, c'est la même source d'eau amère que Dieu a changée en eau douce. Dieu ne lui a pas montré une autre source d'eau. La même source d'eau qui était amère, c'est la même source d'eau que Dieu a changée en eau douce. Des fois, on se plaint des situations, de ceci, de cela. Mais des fois, la situation va rester la même. Mais Dieu sait comment il peut la changer. Comment il peut la changer? Et ce que le Seigneur a fait avec Moïse à Mara. Chers frères et sœurs, Dieu a le pouvoir de changer toutes choses si nous lui sommes obéissants. Car rien n'est impossible à lui, si nous restons obéissants. Le quatrième point, nous allons finir bientôt là, c'est la réponse de Dieu. Nous voyons ici la réponse de Dieu. Nous voyons la patience et la grâce de Dieu. La patience et la grâce de Dieu. Dieu ne leur fait pas de reproches. Même pas de châtiment, même pas de blâme, même pas de punition. Du moins dans ce passage, Dieu ne leur fait pas de reproches. Mais il leur apporte une réponse d'amour et de grâce. Malgré les murmures, nous voyons combien Dieu est patient envers eux. Mais aujourd'hui aussi, Dieu est toujours patient envers nous, malgré nos imperfections, malgré nos manquements. Mais Dieu est toujours patient. À Moïse, la réponse de Dieu, Dieu a répondu à son cri de détresse qui est parvenu à lui et il a entendu sa voix. Dieu a entendu sa voix et il a répondu. Nous pouvons lire cela aussi dans Psaume, le frère Chit Peller, Psaume 18, 7. Psaume 18, 7.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.
Voilà ce qu'a fait Moïse. Et ce que nous devons faire aussi, et dire dans notre prière que dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu et il a entendu ma voix et mon cri. La réponse de Dieu, Dieu a entendu la voix de Moïse, son cri de détresse. Dieu l'a entendu et Dieu a répondu. Au peuple, la réponse de Dieu, Dieu leur exhorte à la fidélité. Nous pouvons le voir à partir du verset 25, jusqu'à 27, je crois. Dieu leur exhorte à la fidélité. À partir du verset 26. Il leur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. L'Éternel exhorte son peuple à la fidélité et à apprendre à lui faire confiance, à obéir à ses commandements. L'Éternel leur donne des ordonnances, comment ils doivent marcher, et il leur fait une promesse. Qu'il sera pour eux Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui t'est guéri. Il a fait cette promesse que je serai pour vous Jéhovah Rapha, le Dieu qui t'est guéri. Mais à une condition, cette promesse est accompagnée d'une condition. Parce que si nous voyons bien, le verset 26 commence par « si ». C'est une condition. Et l'Éternel dit « si tu écoutes ». Pour que l'Éternel soit ton Jéhovah Rapha, l'Éternel qui t'est guéri, tu dois d'abord obéir, lui faire confiance et obéir à sa parole. Rester obéissant. S'il reste obéissant et s'il garde sa parole, et après avoir appris Amara, ce qui signifie dépendre de l'Éternel, là nous sommes au verset 26-27, parce que le verset 27 dit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. Nous n'allons pas rentrer en détail dans le verset 27, parce que c'est faut parler de 12 sources d'eau, de 10 palmiers, donc bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'idée est que après Mara, à Mara, ils ont appris, le Seigneur leur a appris à dépendre de lui, à rester obéissant et à lui faire confiance et de s'abandonner entièrement à lui. Et à Élim, au verset 27, Élim, c'est le repos, c'est le soulagement. C'est le repos, c'est le soulagement. Le Seigneur dit, Amara, voilà ce qui s'est passé. Je vous ai appris à prendre, à compter sur moi, à avoir confiance en moi. Eh bien, maintenant, je peux vous amener vers le soulagement, vers le repos. Mara précède Élim. Ce n'est pas Élim qui précède Mara, mais c'est Mara qui précède Élim. Élim. Et Élim, dans la Bible, signifie, le nom signifie repos, soulagement. Élim signifie repos, soulagement. Après les épreuves, c'est le soulagement. Après les épreuves, si tu mets toute ta confiance en Dieu, viendra le repos, le soulagement. Pour conclure, frères et sœurs, dans les épreuves, nous ne devons pas murmurer. Excusez-moi d'être un peu brutal donc de la façon de le dire, mais c'est comme ça. Dans les épreuves, nous ne devons pas murmurer, mais crier à l'Éternel et lui faire confiance. Et le même frère qui m'avait envoyé un petit commentaire sur Mara m'a dit ceci, enfin a écrit, a partagé avec nous ceci. Chacun de nous a son Mara, comme nous sommes là. Chacun de nous a ses épreuves, chacun de nous a son Mara. Il y a ceux qui ont des Mara de longue durée, et il y a aussi ceux qui ont des Mara de courte durée. Mais quelle que soit la durée de ton Mara, chers frères et sœurs, quelle que soit la durée de ton Mara, la durée de tes épreuves, la durée de tes difficultés, sachez que Dieu, l'Éternel, a un but à atteindre dans ta vie, dans notre vie, dans ma vie. Et ce qu'il te demande, c'est de rester fidèle, obéissant et compter sur lui. Pour conclusion, nous allons conclure par un verset biblique. Le frère, si vous pouvez lire Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, ça sera la conclusion de notre prédication. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4.
Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons un petit temps, vraiment un petit temps, dans la prière. Que chacun puisse se remettre au Seigneur. S'il y a des choses à dire au Seigneur, dis-le. Et ensuite, nous allons conclure par un chant. Prions que chacun puisse prier.